on retrouve Matteo Caranta pour cette revue de presse des idées de la semaine. Matteo.
Oui, la réconciliation est-elle possible? Alors que beaucoup de tribunes cette semaine ont concerné la question de l'existence d'un racisme d'État en France, et vous venez d'en explorer les possibles contours, Nadia Yala Kisukidi, d'autres se sont questionnés sur la police. Peut-on parler de racisme de l'institution policière? La police agit-elle en toute impunité ou est-elle, pour reprendre le titre de l'éditorial du directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Vincent Trémolet-Villers, un bouc émissaire idéal? Que peut-on apprendre de la Covid-19 pour penser l'entente entre des irréconciliables? Dans Le Monde, le sociologue Fabien Jobard remonte le fil historique du racisme dans l'institution policière et raconte comment, dès les années 1920, la préfecture de police disposait d'une brigade nord-africaine chargée de contrôler les Maghrébins à Paris et sa banlieue. Les missions confiées aux policiers sont ancrées, nous dit le directeur de recherche au CNRS, dans une culture et une histoire qui rendent ces institutions extrêmement perméables au racisme. Guerre d'Algérie, désindustrialisation, raréfaction des intermédiaires sociaux, Fabien Jobard retrace le chemin qui conduit, selon ses mots, à ce que les politiques de sécurité, qui ne poursuivent sans doute pas un programme raciste, perpétuent des mécanismes de tri des populations autour des stéréotypes raciaux. Dans l'Humanité, le très médiatique policier et lanceur d'alerte Noam Anouar, remarqué depuis la crise des Gilets jaunes, affirme le contraire. C'est le racisme systémique au sein de la police qui menace les valeurs de la République. On dit que 50% des policiers votent Le Pen, mais c'est bien plus, explique-t-il. Il n'y a rien à attendre des autres qui, pour ne pas être mise à l'écart, se mure dans un silence complice. C'est déplorable, ajoute-t-il, mais seul le ciblage de certaines catégories de population et la couverture de pratiques injustes ou violentes permettent aux policiers de se solidariser entre eux. Et Mediapart, qui publie cette semaine une enquête menée sur 65 comptes rendus d'enquête de l'IGPN, questionne cette solidarité du corps policier quand celle-ci conclut à des techniques, affirme l'enquête, de blanchiment massif des forces de l'ordre. Alors, comment réconcilier ces deux visions antagonistes de la police française? Dans le JDD, le député de La République En Marche, d'Ille-et-Vilaine, Florian Bachelier, et l'avocat Éric Dupond-Moretti réagissent dans un texte commun où ils en appellent à l'entente de tous les Français. Non, la police républicaine ne doit, ne peut et n'est pas raciste, assène-t-il. Oui, un policier qui se rend coupable d'un acte raciste doit se voir retirer immédiatement son uniforme, car c'est la condition, je cite toujours, pour que les filles et les fils de France qui ont fait le choix de porter l'uniforme de la République soient respectés, la loi appliquée, la paix civile assurée, entendre, dire et faire.
Et entendre les inaudibles, c'est aussi l'enjeu du monde d'après, Matteo.
Oui, la philosophe Sandra Laugier nous amène sur le chemin du prendre soin, de l'attention dans le magazine Nobs et dans Le Monde. Bienvenue au pays du care. Cette éthique de sollicitude issue du féminisme anglo-saxon qui milite pour la revalorisation des métiers essentiels mis en évidence par la crise sanitaire. Pour la philosophe, la crise l'a démontré. Si l'État a failli, je cite, il existe bien une compétence citoyenne légitimée par l'action, une expertise collective de la société à prendre soin d'elle-même. S'en priver, nous dit-elle, serait une perte de ce qui fait l'esprit même de la démocratie. Il faut intégrer dans le processus de décision politique l'expertise et les intérêts de l'ensemble des citoyens ordinaires, ceux qu'on n'entend pas d'habitude. Prendre soin de nous-mêmes et des autres, c'est l'enjeu difficile posé par la distanciation sociale pour Eva Illouz dans Libération. La sociologue spécialiste des émotions décortique la nouvelle donne politique fondée sur un risque, la contamination. Si la crise du sida a déjà rendu le contact sexuel dangereux, écrit-elle, c'est ici la socialité dans son ensemble qui demande d'une vigilance permanente, et cette ultra-vigilance de l'autre, cette mise à distance impliquée également par le télétravail, s'oppose pour la sociologue à l'activité politique et sociale ou syndicale. Si vous vous isolez, fragmentez, séparez, nous dit Eva Illouz, c'est la façon idéale de le faire parce qu'on n'a pas le sentiment d'être dominé. Notre liberté est vécue sur un mode parcellaire, c'est cela la vision d'une société qui devient totalitaire selon Hannah Arendt, une société de masse où chacun est de plus en plus isolé, sans possibilité de comprendre la communauté d'intérêts et de destin. Le débat politique rejoint ici le débat immunologique. Et dans le média en ligne AOC, l'anthropologue David Napier de l'Université College of London revient dans un long entretien avec Frédéric Kerk sur les fondements culturels de nos représentations des maladies. Pour l'auteur remarqué des The Edge of Immunity, spécialiste de la cosmogonie balinaise sur laquelle il base ses travaux, changer les métaphores populaires de l'invasion virale et de la protection du soi contre le non-soi reviendrait à influencer le débat sur l'immunité. Et inversement, concevoir l'immunité de troupeau pour l'anthropologue qui revient sur le débat britannique, c'est d'abord rejeter les ennemis à l'extérieur. C'est ce qui relie profondément les épidémies et la xénophobie. Lorsqu'on conçoit les virus comme des envahisseurs étrangers, on n'apprend rien de l'expérience de la pathologie. On veut revenir à une communauté isolée. Il faut penser l'immunité, nous dit David Napier, comme une recherche exploratoire d'informations. Enfin, je lis les mots de l'académicien Dany Laferrière qui inverse l'analogie, reprenant dans le quotidien québécois La Presse ce qu'il nous avait dit à ce micro la semaine dernière. Le racisme est un virus, écrit-il, et on sait aujourd'hui que le virus a atteint presque tout le monde après 4 siècles, et que la plupart des porteurs sont sains, c'est-à-dire qu'ils l'ont, mais n'en souffrent pas. Le pire, c'est qu'ils peuvent le transmettre. Espérons alors que nous en trouverons l'antidote jusque dans la police française.
C'était la revue de presse des idées de la semaine par Matteo Caranta. Qui vous inspire quelque chose, Nadia Yala Kisukidi?
Je pense que le débat sur la question des violences policières est extrêmement important aujourd'hui. Et ce qui est assez fort, c'est de voir comment il a pu faire consensus. Et j'aurais juste rappelé une chose qui me paraît extrêmement importante, c'est que si les gens descendent dans la rue aujourd'hui, c'est pour demander que les institutions fonctionnent. Donc on est quand même dans un paradoxe où c'est la rue aujourd'hui qui demande à ce que les institutions fonctionnent correctement et normalement et ne produisent pas de violence sur les citoyens de ce pays. Donc là aussi, je pense qu'il faut vraiment être très direct avec les discours qui veulent essayer de faire passer pour des manifestations identitaires communautaristes, puisque là on a vraiment affaire à une réflexion générale sur nos institutions, à une réflexion aussi passionnante, je crois, qu'il faut ouvrir sur qu'est-ce que c'est que maintenir l'ordre. Qu'est-ce que c'est que mettre en place une politique de sécurité? Est-ce effectivement on peut pas considérer d'autres manières d'envisager la sécurité qui ne passe peut-être pas par la police? Et ça, ce sont de grands débats démocratiques.